Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle stratégie adopter contre la recrudescence des attaques contre les emprises des forces armées maliennes sur le thème qui sera abordé au cours de ce débat. L'armée malienne fait face actuellement à une recrudescence des attaques contre ses emprises dans le nord et le centre du pays par des combattants du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité, le développement et des groupes terroristes. Comment en comprendre ces hostilités ? Quels sont les objectifs visés? Quelles réponses efficaces faut-il apporter à cette insécurité? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose ces questions à nos invités Alou Seyni Guindo du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Mohamed Ben Mamata Touré, observateur politique, et Dr Alpha Alhadi Koina, géopolitologue et expert de groupes extrémistes au Sahel. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Avant tout propos, je vous invite à écouter le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information des relations publiques des armées, sur ces différentes attaques.
La situation sécuritaire, globalement, nous pouvons retenir que le mois de septembre a été un mois très mouvementé avec la recrudescence des attaques sur des positions FAMA, mais aussi contre des populations civiles. Des attaques terroristes indiscriminées, barbares, lâches, contre des populations civiles sans armes, ni défense, ni co-belligérants, encore moins belligérants. Pourquoi aller s'attaquer à des civils qui ne cherchent qu'à vivre paisiblement dans un pays, bien sûr, qui est en crise? Mais je pense que ces dernières actions des groupes terroristes sont de nature à semer la panique, à semer la zizanie, à semer le trouble dans le cœur, dans l'esprit des populations maliennes. En témoigne l'attaque du bateau Tombouctou. Pourquoi aller s'attaquer à un bateau de transport civil qui ne constituait point un objectif militaire? Quel est l'objectif recherché par ces groupes par rapport à ces différentes attaques sur les populations civiles?
Docteur Alpha Alhadi Koina, comment comprendre ces attaques répétitives au nord et au centre du pays?
Merci beaucoup, Imran, pour cette question. Je tiens d'abord un peu à observer sincèrement une minute de silence un peu à toutes les victimes en fait de ces dernières semaines. Et sincèrement que qu'Allah le Tout-Puissant les accorde le paradis. Tout d'abord, il faut dire que ces actes ignobles que vit notre pays depuis des semaines est vraiment d'abord condamnable. Mais la première des choses, ceci étant dit, il faudra d'abord essayer de voir dans quel contexte nous vivons ces actes ignobles. Il faut d'abord rappeler que depuis le mois de juin, en fait, c'est que quand l'armée, le régime a demandé un peu le retrait de l'aménagement, on a vu que déjà la situation au nord commençait un peu à changer, la dynamique commençait à changer un peu. Et après cela, on a vu aussi que après le retrait sans délai de l'aménagement, il y avait déjà un mois de juillet les groupes rebelles qui essayaient directement de se positionner par rapport disons d'une manière aux différentes bases qui seront un peu libérées. Et c'est là, on l'a rappelé plusieurs fois, c'est que l'aménagement ne pouvait pas d'une manière rétrocéder ses bases à des groupes rebelles et donc forcément à des groupes, forcément à l'État. Et donc ce qui s'est préparé d'une manière, on savait déjà directement que les groupes rebelles se sentaient un peu sous menace. Donc on a vu que pratiquement la base de Ber a été cédée à l'armée et plus tard, en fait, on voit un peu d'autres bases dans le secteur de Gundam aussi. Et on pouvait, d'une manière, c'est vrai qu'on prête un peu à l'armée un peu de vouloir récupérer le plus vite que possible la ville de Kidal, qui est le fief de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est qui, d'une manière, c'est vraiment naturel. Mais on voit que ces derniers jours aussi, il y avait un peu des mouvements vers Anafis et puis à Gelhok et d'autres zones. Donc, en fait, on peut directement, c'est dire que tous ces attaques, ces opérations de ces derniers jours, un peu de ces dernières semaines de la coordination des mouvements de l'Azawad est d'une manière pour dissuader un tout petit peu l'armée à vouloir contrôler certaines de leurs bases parce que pour eux un peu dans les arrangements sécuritaires ces grandes villes les appartiennent.
Mohamed Ben Mamata Touré, quelle observation faites-vous de ces différentes attaques à répétition contre les forces armées maliennes?
Ok, en premier j'adresse mes condoléances aux familles des victimes disparues et souhaite prompt rétablissement aux blessés et à tous ceux qui ont perdu leurs biens. Je les dis vraiment de serrer la ceinture, que ce n'est pas facile, mais avec le temps, ça ira. Donc vous savez, comme l'a dit mon co-débatteur, depuis la session du camp de Ber, nous avons vu que ces groupes armés sont dans une dynamique de propagande et puis surtout de provocation. Donc c'est des gens qui sont là et ils sont juste paniqués à ces heures, croyant que l'armée malienne va employer la force comme elle l'avait fait pour récupérer Ber. Donc maintenant il reste le camp de Tessalit, Aguelok et puis Kidal, où ils se sont dit que peut-être que là-bas les combats vont beaucoup s'intensifier. Donc s'ils ne prennent pas garde, ça va être la fin de leur regroupement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont dans cette dynamique. Parce que nous pouvons dire que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée par ces groupes armés qui se disent signataires de l'accord de paix. Si réellement ils respectaient leur engagement, l'accord de paix issu du processus d'Alger, je crois qu'on n'allait pas être là où nous sommes. Parce qu'ils croyaient avoir une puissance de feu plus que nos militaires, et nos militaires aussi, en ce que, vu le contexte, ne vont jamais se laisser faire aussi par ces différents groupes armés. Donc, on est prêt pour aller jusqu'au bout de cette situation, pour pouvoir voir ce qu'ils croient avoir le dessus sur nous aussi.
D'accord. On est prêt pour aller jusqu'au bout. Alousseini Guindo, comment vous voyez ces différentes attaques qui visent notamment les emprises des forces armées maliennes et certaines populations?
C'est déplorable quand même. Mais avant de rentrer dans le sujet, permettez-moi, comme mes co-débatteurs, d'adresser vraiment une pensée pieuse à l'endroit de tous les victimes de cette crise sécuritaire et sociale depuis son avènement en 2012 à ces jours. Que Dieu nous en garde et que Dieu ramène la paix dans le pays. Alors, cette façon de s'attaquer à l'armée et de s'attaquer aux populations civiles ne peut être justifiée que par la cruauté de ceux qui sont auteurs de ces pratiques, que cela soit des rangs des groupes déclarés et connus étant terroristes et des groupes aussi qui se disent séparatistes ou indépendantistes, mais aujourd'hui qui sont dans le même lot que les groupes extrémistes terroristes. Donc, c'est pour dire que pour rien au monde, ces attaques ne peuvent être justifiées, allant à l'encontre vraiment des vies humaines, de leur préservation et également à la préservation de la quiétude sociale et des biens. Et surtout, la guerre qui a été imposée à notre pays l'a été imposée aussi à l'accepter par la volonté de certains de ses fils et de certaines de ses filles, si on peut le dire ainsi, puisque vous aurez compris que c'est depuis la demande de l'indépendance de certains dans cette partie du septentrion, des Touaregs, même si pas et tous, que tout est allé. C'est de là qu'il y a eu des fusions avec les groupes extrémistes combattants au nom de la religion, Moujao, Acmi, Ansardine, Al-Qaïda. Et c'est de là que le pays a connu vraiment cette instabilité et cette insécurité. Donc c'est pour dire que pour rien au monde, cela n'aurait pas été accepté à se passer dans notre pays. Et surtout, ceux qui aujourd'hui sont dans cette phase de combat, tous souvent parlent de dialogue, parlent d'entente. Et il y a aussi de l'accord large qui réside un peu la partie gouvernementale et cette partie des séparatistes ou des indépendantistes aujourd'hui qui sont dans le lot des groupes extrémistes ou des groupes terroristes. Donc c'est pour dire que si on mettait vraiment la volonté et si on introduisait mieux nos génies et si on mettait encore plus les intérêts de côté, on aurait pu avoir vraiment une solution à cette crise sans prendre des armes face à cette guerre hybride que notre pays mène et d'une part aussi avec ses propres fils. Donc c'est pour dire que c'est
vraiment regrettable. Mais il faut aussi noter qu'il y a des mains invisibles dans cette guerre que mène le Mali, qui ont peut-être alimenté certains fils du Mali à déclarer cette guerre contre le Mali pour des agendas connus et méconnus qu'ils entretiennent. Et cela aussi ne doit pas être accepté. Et si vous constatez tous ces groupes qui mènent cette guerre, si vous analysez en profondeur, vous ne verrez pas les chefs de file de ces mouvements armés engagés sur le terrain, parlant des mouvements séparatistes ou indépendantistes. Et vous avez entendu qu'il y a eu même certains d'entre eux qui ont demandé à ce que leurs enfants et leurs familles quittent les lieux des hostilités. Alors, au nom de quel développement, au nom de quelle paix, au nom de quelle sécurité, ils mènent ces combats contre leur propre pays et pensant qu'ils peuvent donner un avenir meilleur aux fils et aux filles du terroir de cette partie du septentrion. N'en est pas le cas.
Quand vous parlez tout à l'heure des mains invisibles qui sont derrière ces attaques, à quoi faites-vous allusion?
Bon, je fais allusion, comme l'ont dit les plus hautes autorités maliennes, au malice de la France, puisque récemment, aux tribunes des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères maliennes a clairement montré quand même qu'ils ont des preuves comme quoi la France s'est engagée dans des manœuvres vraiment qui ne disent pas leur nom dans cette partie du centre du Mali, et voire même du Nord, en soutenant les groupes extrémistes ou les groupes rebelles, en leur livrant des matériels de guerre et autres choses. Donc, tout ça alimente les tensions. Et à revenir aussi sur ce que mes prédécesseurs ont dit, le quiproquo est parti du retrait de l'aménagement où on a vu le même cadre qui regroupe ces groupes séparatistes indépendantistes aujourd'hui déclarés comme terroristes, puisqu'ils ont déclaré la guerre à leur pays qui est le Mali, aux forces armées maliennes, de façon officielle et de façon même individuelle par certains de leurs. Donc, leur position a montré clairement qu'ils sont vraiment hostiles à leur pays. Donc, de par toutes ces analyses, cela laisse entendre que ce sont eux qui ont voulu qu'on parte dans cette situation. Sinon, on aurait pu, avec l'accord qui réside la partie gouvernementale et la partie des groupes indépendantistes, aller vraiment à une table de dialogue et de négociation. Mais depuis qu'on a annoncé le départ de l'aménagement, ils ont lancé les boycotts aux autorités de la transition. Et cela, c'est à la demande aussi du peuple malien que les autorités de la transition ont demandé le départ de l'aménagement. Et aussi, quand on les a appelés à se joindre au vote référendaire, et à se joindre au projet de la révision constitutionnelle. Il y en a ceux d'entre eux qui ont fait la politique des chaises vides. Là aussi, ils ont lancé vraiment des piques à l'endroit des autorités en boycottant les votes référendaires. Et après, quand l'aménagement a décidé de quitter avec la demande du peuple malien et de ses autorités et que cela a été acté, ils sont inscrits dans une dynamique de récupérer les camps qui sont laissés par l'aménagement qu'ils pensent être des ayants droit. Alors que quand vous rentrez dans le cadre de l'accord, personne d'entre les mouvements signataires de l'accord ne met en cause, y compris avec la partie gouvernementale, il ne faut même pas penser à ce niveau, que cette partie mette cela en cause, et le caractère laïque du pays, de son intégrité.
Nous allons parler plus tard de cet accord de paix signé entre les mouvements armés et les autorités maliennes. Tout à l'heure, dans son intervention, le colonel Souleymane Dembélé s'interroge sur les objectifs de ces attaques. Je vous repose la même question. Quels sont les objectifs visés par ces différentes attaques contre les emprises de l'armée malienne?
Bon, il n'y a pas que les emprises de l'armée malienne. Il s'est posé la question pourquoi contre les populations civiles maliennes. C'est toujours pour faire peur et pour faire aussi vraiment tort aux plus hautes autorités, notamment l'autorité gouvernementale qui a la charge de la conduite des affaires publiques ou de l'État du Mali. Donc toucher à la partie civile ou toucher à son armée ou à défaut toucher encore à la partie civile ne consiste et ne vise autre objectif que faire du mal aux plus hautes autorités gouvernantes du pays. Donc c'est aussi cette dynamique-là. Et d'ailleurs, ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Les attaques dans les régions du centre du Mali, qui ont même commencé jadissement dans les régions du nord du Mali et un peu partout sur l'étendue du territoire malien, ce sont ces mêmes types d'attaques. Si on n'attaque pas les positions des FAMA, on attaque les paisibles voyageurs, soit dans des bus où on met des engins explosifs improvisés sur les tronçons des voyages ou dans les abords des villages et d'autres populations montent sur ça et puis ils payent de leur vie. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des attaques récentes et ce n'est pas un phénomène qui est à la mode. Cela a été toujours fait partie des opérations des groupes extrémistes ou des groupes terroristes. S'attaquer aux forces armées maliennes et s'attaquer aux civils a été toujours leur raison. Mais cela se justifie tout simplement par le fait d'affaiblir l'État, de faire tort à l'État et de montrer à l'État son impuissance.
D'accord. Koïna, je vous repose la même question. Quelles pourraient être les raisons de ces différentes attaques contre les forces armées maliennes et certaines populations?
Écoutez, en fait, si on essaie de voir un peu la stratégie de
parce que en fait ici en fait on est en train de parler de deux groupes. On est en train de parler de la coordination des mouvements de l'Azawad qui aujourd'hui est sous la couverture du cadre stratégique permanent pour la paix, la stabilité et le développement. En fait, c'est CSP et PSD. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le cadre stratégique permanent, d'une manière, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements qui se sont retirés. En fait, on peut parler du mouvement de Moussa Gachar Charatouman, qui est des MSA, qui est vraiment un groupe qui pèse beaucoup dedans. En fait, on sait aussi qu'il y a une partie de Gacha qui s'est retirée au-dessus du cadre permanent, mais je me demande toujours pourquoi, en fait, on continue. La plateforme, exactement. Et donc, je me demande toujours pourquoi, en fait, c'est qu'on continue à utiliser le cadre stratégique permanent pour faire les revendications. Mais bon, ceci étant dit, en fait, on sait aussi qu'il y a les JNIM qui, de l'autre côté aussi, qui revendiquent un peu certaines attaques dans d'autres régions. Parce qu'on peut même, on se rappelle qu'à Charan, dans la région de Tombouctou, c'était les JNIM. Et puis, en septembre dernier, en fait, c'était aussi, quand on avait attaqué la première fois Bamba, c'était aussi les JNIM qui revendiquaient cela. Et aussi, en fait, ce qui beaucoup prête aussi à l'attaque du bateau de Tombouctou aux JNIM. Donc, là, un peu, donc on a pratiquement deux groupes d'acteurs un peu qui sont sur le terrain. Et ce qui est un peu difficile, parfois, c'est vrai qu'on peut... Il y a certaines revendications qui prêtent la confusion parce que des fois, on a sur les mêmes positions des revendications de la coordination des mouvements de l'Azawad et aussi, nous avons aussi parfois des revendications de groupes islamo-terroristes, les JNIM. Donc, en fait, parfois, on peut se poser quand même la question de savoir si ces deux entités, en fait, ces deux groupes collaborent ensemble ou bien parfois, ou c'est juste dit au fait que ces groupes, d'une manière, ont le même objectif, d'une manière, c'est d'affaiblir le gouvernement malien et puis de l'amener un peu sur les tables de négociation. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, les deux acteurs ne sont pas en train de s'affronter. Donc, il est fort probable qu'il y ait un pacte de non-agression ou bien c'est parfois c'est le même groupe d'une manière qui d'une manière attaque des positions du gouvernement. Et pour ce qu'on peut dire pour les mouvements rebelles aujourd'hui un peu qualifiés par le gouvernement comme groupe terroriste, l'objectif d'une manière c'est pratiquement de dissuader le gouvernement de s'attaquer un peu au fief de Kidal. Et mais pour le JNIM un peu, c'est on sait que depuis quand le Barkhane était là, le JNIM demandait un peu pour toute négociation le départ d'abord des Français et après le départ de l'AMINISMA. Aujourd'hui Barkhane est parti. L'AMINISMA est parti. Il y a une nouvelle revendication, c'est un peu le départ de forces russes qualifiées par les instructeurs.
Mais est-ce que le cadre stratégique a une nouvelle revendication sur la table de négociation qui pourrait être le déclencheur de ces attaques contre les forces armées maliennes?
Aujourd'hui, le cadre stratégique permanent n'a pas une revendication spécifique qui dirait d'une manière... que l'on connaît. En fait, la seule demande, c'est de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation. Et pour eux, en fait, l'accord, d'une manière, depuis un certain bout de temps, le gouvernement n'a pas l'intention de mettre ça en œuvre. Donc, c'est pour cela, en fait, pour eux, donc, ils sont un tout peu. C'est pour cela qu'on sait que depuis décembre 2022, si je me trompe pas, c'est certain, il y a déjà une délégation, en fait, une partie de la CMA s'est retirée du CSA, du comité stratégique, du comité de suivi de l'accord. Donc, aujourd'hui, pour le CSP, en fait, c'est de mettre en œuvre l'accord. Mais en fait, mettre en œuvre l'accord pour eux, c'est d'abord un peu respecter certains articles de l'accord pour eux d'une manière d'abord dans l'idée, comme je le disais au début, c'est qu'il y a au préalable de l'accord, il y avait déjà des arrangements sécuritaires qui étaient là. Donc, il y a certaines bases qui leur revenaient des droits. Et donc, pour eux, ces positions-là doivent rester intactes. Donc, il ne doit pas y avoir d'une manière une rétrocession pour l'armée. Donc, ça, c'est le béaba pour eux d'abord. Et pour le gouvernement, ce n'est pas question. En fait, il n'y a pas pour eux, c'est que pour le gouvernement, c'est que l'aménagement qui. L'État est souverain, donc l'armée occupe les positions, les bases qui sont là. Et donc, c'est un peu le différent qu'il y a un peu entre le CSP et puis le gouvernement ces jours.
L'un des membres du cadre stratégique, notamment Fahad Agal Mahmoud, avait déclaré lors d'une sortie qu'il s'agira de libérer le Mali, de libérer l'armée malienne. Est-ce à dire que le Mali a été pris en otage par ses propres forces?
Alors, il faut dire que pour ça, c'est un peu de la propagande, un peu de la communication. C'est tout à fait normal. En fait, c'est que bon, on peut s'attendre à cela parce qu'aujourd'hui, le cadre stratégique permanent ne peut pas dire nous voulons rester dans l'accord et en même temps dire nous voulons libérer l'Azawad. C'est pas la même chose. En fait, si on dit on libère l'Azawad, c'est qui veut dire qu'en fait c'est qu'on veut l'indépendance de l'Azawad. Donc libérer les Mali, c'est une stratégie de communication aussi, c'est de dire que bon, aujourd'hui, on sait que le régime est là. Bon, on peut se dire que bon, le régime est là, en fait, c'est que il y a eu un coup d'État, le régime c'est depuis 2020 en fait est ici. Donc ils savent aussi que en fait c'est que même si une partie des Maliens, une majorité des Maliens soutient le régime, mais ils savent aussi qu'il y a aussi certaines personnes, tout à fait normal, dans une famille, tout le monde ne peut pas être d'accord sur quelque chose. Donc il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord sur des positions du régime actuel. Donc pour avoir le soutien de cette partie de la population, ils disent qu'on va libérer les Mali en tant que tel. C'est pour cela qu'en fait, c'est qu'on voit déjà, en fait, il y avait des communications de Oumar Mariko, il y a aussi d'autres leaders qui disent, bon, maintenant, en fait, c'est que pour les élections, c'est reporté, donc il faut faire les élections. Donc pour eux aussi, c'est d'essayer d'amener tous ces dissidents-là du régime vers eux, de faire un peu une compassion pour pouvoir un peu avoir gagné en communication et aussi continuer leur guerre sans beaucoup de pression.
Mohamed Ben Mamata, quelles sont les possibles répercussions de cette situation sur la population civile?
Bon, les répercussions sur la population civile sont vraiment énormes parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a déjà des régions, par exemple la ville de Tombouctou qui est sous blocus, et peut-être que Gaoué et d'autres localités sont aussi sous menace encore. Donc le cas de Bourem-Bamba jusqu'à aller vers les Ménaka, donc il y a beaucoup de risques qui sont là, dont les populations vraiment ne comprennent plus rien, et la population est tellement inquiète qu'il y a des gens qui veulent même quitter les villes, mais ils ne savent pas comment. Donc, c'est comme je l'ai dit. Donc, vous savez, ces gens, ils sont dans une dynamique où si nous ne faisons pas attention, nous allons mettre c'est la population même qui va se soulever contre les autorités. Et de là, la guerre de communication, il faut que nos autorités aussi parviennent à la tenir très bien et puis à la gagner aussi. Parce que ce n'est pas que les communiqués ou bien les gens qui sont sur les réseaux sociaux en disant que l'armée a fait telle ou telle victoire par-ci ou par-là. Donc nous voyons que les autres États, quand ils sont en guerre, ils font appel à des universitaires, ils font appel à des experts, ils font appel à des chercheurs, et puis surtout à des grands analystes aussi qui sont là, des journalistes, des hommes de médias professionnels qui s'y connaissent dans la chose pour essayer de venir sur les plateaux de télé et de radio afin de pouvoir dire vraiment ce qu'il y a à dire contre les ennemis et puis essayer de venir vers la population et faire comprendre à la population de la réalité qui se vit sur le terrain. Donc nous avons ce déficit de communication qui nous met vraiment du truc au pied. Donc vous savez, il y a eu deux de nos présidents, Defin, qui avaient passé, qui avaient dit certaines choses. Parce que souvent, il est très bien de nous faire des rappels. Et Feu Moussa Traoré, si vous me le permettez, je le dis en bambara, après je le traduirai en français. Quand le Mali, et quand Thomas Sankara était là en train de provoquer le Mali, qu'est-ce que Moussa Traoré dit? Il dit en bambara, « Ako ayendeni mantasara, ayembugo mantasara, kabembi nyenda, kaben kuronto ngo odeteke. » Donc ça veut dire que Sankara lui a insulté, il n'a pas dit mot. Il a frappé, il n'a pas dit mot. Il voulait le mettre à terre, il s'est couché. Maintenant, le traîner à terre, là, il ne va pas être d'accord. C'est ce système que ces gens sont en train de nous faire. C'est comme Feu Atété aussi, il avait dit. Il dit que Kodou Dobé ni Doudé ma bidouri. Doutigi ka Doudé ma bidouri. Douerabé a Doudé ma douri. Ma douroutigi kata bidouroutigi kaso kata tege tchanye ka akademayala. Kona du ma bidouroutigi ma tani hakli. Naya tani dusui. Abe tchenike. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une famille nombreuse de 50 personnes, le chef de famille est là, et une autre famille de 5 personnes avec le chef de famille. Le chef de famille de 5 personnes quitte chez lui pour aller donner un bon gifle au chef de famille des 50 personnes. Si jamais ce dernier ne met pas la raison devant et que les 50 personnes essayent d'agir autrement, ils vont créer quelque chose de pire. Et aujourd'hui, ces gens, ils nous ont insultés, on n'a pas riposté. Ils nous ont frappés, on n'a pas riposté. Ils voulaient nous mettre à terre, on s'est couché. Maintenant, nous traîner, nous disons que c'est ce qui ne se fait pas. Donc, jusqu'à preuve de contraire, si vous voyez les différentes attaques qui se passent, ce sont eux qui viennent tomber sur nous, nos gens dans les camps. Ce sont eux qui bombardent nous, nos bateaux, nos pinasses et autres. L'armée malienne va en riposte après. L'armée n'a jamais attaqué. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont là, qui ont un autre calendrier qui est là, qui ont d'autres idées derrière la tête. Parce que si vous voyez qu'ils font tout cela, il est très important et très bien de se poser la question qui est derrière tout ça. Donc, de là, ce que nous pouvons dire, il faut que nous, populations, nous fassions beaucoup attention entre nous d'abord. Parce que le problème aussi, c'est quoi? Le problème, c'est entre nous, populations. Parce qu'il y a des gens qui sont là, en train de se réjouir de l'attaque de nos camps, en train de se réjouir de nos militaires qui tombent sur les fronts, en train de se réjouir de nos équipements qui sont en train d'être emportés par la diffusion de certaines images, vraies ou faux. Donc c'est pourquoi souvent nous interpellons les autorités de la DIRPA à sortir et à communiquer plus. D'accord. Parce que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, ça n'encourage pas du tout. Donc il faut qu'on mette frein à ça.
Les ex-rebelles qui revendiquent souvent ces attaques, ce comportement pourrait-il compromettre l'accord pour la paix et la réconciliation?
Bon, ça peut comme ça ne peut pas. Parce que ces rebelles dont on parle qui se réclament du CSP, ils sont du JNIM, ils sont de l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est les mêmes personnes et c'est les mêmes modes d'opération aussi qui se passent sur le terrain. Donc l'accord d'Alger, il est là. Et nos autorités, à chaque fois qu'ils vont devant le Conseil des Nations Unies, ils disent qu'elles vont appliquer l'accord intégralement. Donc maintenant, cet accord-là, nous, nos autorités n'ont jamais refusé. Mais la politique de la chaise vide que ces gens ont l'habitude de faire, il faut qu'on arrête ça. Comme eux-mêmes, ils avaient demandé un moment que... L'accord que nous, on avait demandé un moment l'accord, la lecture de l'accord et dans les différents forats, au dialogue national inclusif, aux assises aussi. Donc maintenant, et l'accord aussi dit en son contenu aussi, il est possible de faire sa réélecture. Et les trois parties qui sont là, la partie des groupes signataires, les partenaires et puis l'État du Mali. Aucun de ces trois partis n'a jamais fait appel pour qu'on puisse réviser cet accord ou bien pour qu'on puisse faire la réélecture de cet accord. Qu'une des parties, surtout la partie gouvernementale, prenne ses courage en main pour essayer de faire un appel auprès des partenaires pour les appeler à ce qu'on vienne autour de la table discuter de la réélecture de l'accord. Parce que cet accord-là, il y a d'autres qui disent que c'est caduque, d'autres disent qu'on va l'appliquer intelligemment, mais à chaque fois, nous, nos autorités disent qu'ils vont appliquer l'accord intégralement. Et l'accord aussi, pour le petit exemple, la petite chose que j'ai faite sur l'accord aujourd'hui, je crois que même des puissances comme la France et les États-Unis ne peuvent pas l'appliquer intégralement. Il faut qu'on se dise cette vérité. L'accord, c'est comme un poisson maintenant. Si M. Guindo me dit qu'on peut manger un poisson même avec ses arrêtes et tout, et que Koïna dit que non, ce n'est pas possible. On amène un poisson, on le met sur la table, bien grillé, on amène Diko, on va commencer à manger le poisson. On finit avec la partie qui est mangeable. Maintenant, si les arêtes restent maintenant là, Diko va nous donner la bonne manière pour qu'on puisse croquer ces arêtes. Donc, si les groupes signataires et puis la communauté internationale qui sont là, ils parviennent à nous dire qu'on peut manger et le poisson en entier sans rien jeter, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'on puisse appliquer cet accord d'Alger. Mais il faut que les trois parties essayent de voir, sinon les deux parties, la partie gouvernementale du Mali et la partie de la communauté internationale, que les deux voient ensemble, parce qu'on est trois. Si les deux parviennent à se mettre ensemble, je crois que si la troisième refuse, l'option qui doit être adoptée sera adoptée.
Alseni Guindo, dans cette situation, est-ce que le gouvernement et les mouvements armés vont revenir sur la table des négociations dans ces conditions?
Nous l'espérons très prochainement. Et d'ailleurs, c'est ce que font entendre beaucoup d'analystes.
Est-ce possible?
Et c'est ce que font entendre aussi beaucoup de voix parmi les sociétés civiles, et y compris d'autres composantes de la société malienne. Bon, dans ces conditions, pas possible. Puisque dans ces conditions, vous l'aurez constaté qu'il y a certains d'entre ceux qui mènent aujourd'hui ces hostilités qui sont toujours dans cette position d'attaquer l'État et de s'attaquer aux fondamentaux et aux principes républicains, hein, à rester sur leur position de vouloir aussi toujours récupérer les emprises de la MINUSMA. Ça, je le disais tout à l'heure dans mes interventions. Et dans cette dynamique, il ne serait pas du tout possible. Comme l'a dit mon co-débatteur, si tous les problèmes se résument par le fait que les mouvements signataires de l'accord veulent vraiment s'accaparer des emprises de la MINUSMA et que pour l'État du Mali, pas question, avec tous les degrés de notre armement et des formations que nous avons acquises récemment et par nos hommes qui ont la morale au top, ça serait du tout pas possible que l'État accepte d'aller dans cette dynamique. Et si c'est dans cette dynamique-là aussi que voudraient rester les mouvements signataires de l'accord, ça ne serait pas aussi du tout possible. Donc moi, je pense que la raison qui prime, c'est la raison de la République, c'est la raison de la souveraineté. Il faudrait que ces groupes vraiment acceptent d'aller toujours sur des bonnes bases de dialogue et de négociation afin que nous sortons de cette situation. Mais en voulant faire le bras de fer avec l'État central, ça ne serait pas du tout possible. Et surtout, un autre point qui ne doit pas échapper souvent les analystes, hein, c'est d'entre les mouvements Touareg ou indépendantistes ou séparatistes qui se réclament ou qui tiennent cette position sont même minoritaires dans cette partie du Nord où elles revendiquent ces droits-là. Et parmi d'entre les populations pour lesquelles ils mènent ou ils sont en train de mener ces combats, ces populations, dans leur majorité, ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est vraiment de la magie. C'est pour dire qu'aucun d'entre fils du Mali ne doit accepter de mettre vraiment notre pays dans cette situation et conduire le pays vers des destins inconnus. Autre chose, comme j'ai allé dire, il n'y a pas un seul parmi les responsables de ces mouvements armés signataires de l'accord aujourd'hui qui se sont déclarés comme combattants aux raisons d'être de la République du Mali, qui sont déjà rattachés au lot des terroristes, il n'y a pas un seul d'entre leurs fils aujourd'hui peut-être qui est engagé sur le terrain ou plusieurs membres de leur famille qui sont sur le terrain de ces théâtres des opérations. Ils ont fait sortir leur famille pour les laisser hors zone de combat. Et pourtant, les populations pour lesquelles ils disent combattre, ils disent, bon, c'est pour la paix, c'est pour le développement, c'est pour les salis. Mais est-ce qu'on peut avoir du sali dans la guerre? Est-ce qu'on peut ramener du développement dans la guerre? Est-ce qu'on peut faire la paix dans la guerre? Et la plupart d'entre les responsables de ces mouvements aussi, ce sont des gens qui ont été à l'école par les maigres impôts des contribuables maliens, qui ont aussi servi dans les institutions étatiques, qui ont peut-être souvent refusé, et d'autres qui continuent même à ces jours de servir la nation malienne. Donc c'est pour dire que vraiment, mettons le bon sens au devant des choses et sortons de cette situation. Au nom de toutes les appellations qu'il se colle, je crois que si on use du bon sens, on n'aurait dû pas accepter mettre notre pays dans cette situation. Ça, c'est un message de la part vraiment des groupes signataires de l'accord qui aujourd'hui, qui soit de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui, d'entre ces mouvements, dans le cadre stratégique permanent pour la sécurité et le développement, ont déclaré la guerre au Mali, mais pas tous ces mouvements. En parlant aussi des mouvements, il faut aussi souvent faire des nuances.
La communauté internationale, la garante de l'accord pour la paix et la réconciliation, appelle-t-elle à un cessez-le-feu dans ces conditions?
Bon, il faille quand même vraiment appeler à un cessez-le-feu, hein. Mais le problème est que souvent, ces mêmes garants de l'accord du côté du gouvernement sont vus comme étant ceux qui ont provoqué aussi cette situation. J'ai allé dire récemment, il a été dit que la MINUSMA au nom de leur position, de ce qu'ils appellent force d'interposition, mais que le gouvernement trouve en train d'instrumentaliser la population civile malienne pour des fins de questions des droits de l'homme. Et que si l'État du Mali est attaqué, et que si le symbole même réalisé du Mali est attaqué, qu'il soit les bateaux de Tombouctou ou d'autres localités, on n'entend pas la déclaration ou les communiqués de cette communauté internationale. Alors comment l'État peut faire confiance à cette communauté internationale comme garante de l'accord pour pouvoir avancer aussi vers la paix? Donc, il faudrait dire que les autorités maliennes, moi je dirais dans mes analyses, dans mes constats, n'ont jamais été de mauvaise foi pour avancer vers la paix. Jamais, dans mes constats. Mais quelquefois, les garants de l'accord, qu'ils soient des partenaires internationaux ou qu'ils soient les mouvements indépendantistes, ce sont eux qui se portent à faux à vouloir vraiment matérialiser cette volonté d'aller vers la paix. Sinon, les cadres qui avaient été mis en place, notamment que les CSA et encore les CSP qui a été mis en place, et tant d'autres, le fait de les mettre dans les institutions, que ce soit les CNT, dans les gouvernements, le fait de les appeler à voir comment est-ce qu'on pourrait parvenir à réviser notre constitution et les votes référendaires, de toutes les assises de décisions importantes pour la question de la vie de la nation malienne, les autorités maliennes ont tendu la main à ces groupes séparatistes ou à cette coordination des mouvements de la ZAVAD. Et ceux d'entre eux qui croient aussi que l'accord n'a pas connu certains processus de son mise en application, non. Il y a ce qu'on appelle le BATFAR, hein, le bataillon des armées reconstitué récemment au nord qui a été mis en place. Et il y a eu une volonté de la part de nos autorités gouvernementales d'intégrer 13 000 d'ex-combattants dans tous les corps de la fonction publique malienne. Donc, c'est tout un processus qui était bien en marche pour pouvoir vraiment nous éviter toutes ces situations. Mais j'ai constaté plusieurs fois la politique de la cesse vide, la politique du boycott venant de la part de ces groupes séparatistes et indépendantistes. Mais il faille quand même que malgré tout ça, quelle que soit la situation, que les garants de l'accord ou ceux qui sont intermédiaires entre les parties appellent vraiment à la cessation des hostilités par des cessez-le-feu et aller à des tables de dialogue et de négociation. Que l'État du Mali n'a pas refusé à entendre le ministre de la Réconciliation nationale sur sa sortie d'État Oudini récemment.
D'accord. Docteur Alpha, le rapprochement de deux camps est-il encore possible?
J'espère bien que en fait, ça sera possible parce que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quand même, il y a des attaques, il y a du sang qui coule. Mais en fait, comme on le sait déjà, on finit en situation de guerre, on finit toujours par des négociations. Et ce qui serait plus intelligent, c'est de remettre ça de l'avant aujourd'hui. C'est vrai que entre les membres du groupe, disons entre les partisans du groupe rebelle, il y a beaucoup qui appellent un peu à la guerre et autre chose. Mais la même manière, en fait, c'est que de ce côté aussi, il y a beaucoup qui pensent qu'en fait il faut aller vraiment taper les rebelles à Kidal ou dans d'autres localités. C'est tout à fait normal pour l'État de chercher un peu à imposer un peu sa force derrière, mais il est quand même intelligent de voir que aujourd'hui on est quand même face à différents groupes. Donc on a les groupes extrémistes et puis on a les groupes rebelles. Je ne dirais pas en fait ce qu'il faut directement mettre par exemple les charrues devant le bœuf un peu en cherchant un peu à négocier directement, mais quand même ouvrir toujours, ouvrir la porte de négociation, essayer de voir quand même entre les membres du groupe, parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, on a certains leaders de CMA qui d'une manière qui ont quitté la CMA de facto d'une manière parce que ils ont d'une manière montré leur soutien directement aux efforts du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre les groupes extrémistes et puis la guerre qui se vit aujourd'hui dans le Nord. Donc je pense que quand même je suis convaincu aussi que une bonne partie de la population que ce soit de Kidal ou bien dans d'autres zones veut aujourd'hui la paix. 10 ans de guerre, sincèrement, c'en est de trop. En fait, on le sait.
Vous avez parlé tout à l'heure de négociations. De quel type de négociations faut-il mener dans ce cas?
Alors, la négociation qu'il faut mener aujourd'hui dans ce cas, c'est vrai que quand on parle de négociations, les gens ont un tout petit peu peur de ces verbes. Mais malheureusement, en fait, c'est qu'on ne peut que dire un peu faire la négociation. La négociation ne veut pas dire un peu renoncer à quelque chose. Non. La négociation veut dire qu'en fait, amener certaines personnes un peu sur les tables de dialogue et puis leur expliquer d'une manière que, en fait, ça, c'est un peu la raison voudrait ça. L'État, d'une manière étant garant de la sécurité, l'État doit récupérer un peu ces zones. En expliquant aussi qu'en fait, le fait de récupérer certaines zones n'est pas d'une manière une agression directement à eux. Et aussi essayer de donner des garanties par rapport à, disons, à la mise en œuvre de l'accord. En fait, c'est parce qu'il faut, le dire aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de personnes dénoncent un peu l'accord, mais cet accord, quand même, aujourd'hui, contient beaucoup d'éléments aussi qui est aussi favorable à tous les Mali. Je ne dis pas seulement au nord du Mali, surtout en ce qui concerne un peu la décentralisation où beaucoup de personnes ont peur de cela, mais en réalité, en essayant de voir un peu dans l'expérience de certains pays occidentaux où, en fait, d'une manière, il y a quand même la décentralisation a fonctionné, je ne pense pas que en fait, c'est que ce serait d'une manière une porte vers la division. Donc, il est important d'une manière de montrer qu'en fait, c'est que les autorités ont vraiment la volonté, ce qui est, d'appliquer l'accord, mais seulement que ça est en train de prendre du temps parce que le Mali, comme le disait Guindo, en fait, a des maigres moyens. Donc, en même temps, en fait, il faut donner quand même l'assurance aux autres fils du pays et surtout de ne pas d'une manière toujours incité vers la violence qui est vraiment déplorable.
D'accord. Tout à l'heure, Mohamed Belmamata Touré a parlé de guerre communicationnelle. Le colonel Souleymane Dembélé de la DIRPA a dénoncé d'ailleurs ce matin cette guerre communicationnelle. Suivons-le.
Être terroriste, ce n'est pas celui qui va prendre l'arme et se battre, mais celui-là qui fait l'épilogue du terrorisme, celui-là qui ne fait que partager des informations en défaveur de son armée, en défaveur de sa nation, en défaveur de son État, et qui ne fait que partager les acquis du terrorisme. Est-il un terroriste ou pas? C'est cela aussi qu'il faut combattre aujourd'hui dans notre pays. Et à chaque fois qu'il y a une caserne qui est attaquée, à chaque fois que les terroristes qui sont actuellement en train de prendre une autre tournure dans leur communication, nous sommes là à les appuyer dans cette communication. Effectivement, nous sommes face à une guerre communicationnelle. Nous sommes face à une guerre informationnelle et il faut qu'aujourd'hui, qu'on prenne du recul par rapport à certains comportements. Tout n'est pas à partager, tout n'est pas à diffuser, tout n'est pas à faire savoir aux populations.
Mohamed Belmamata, comment y faire face à cette situation?
La solution, c'est entre les mains des autorités qui sont là. Parce que le directeur de la DIRPA avait dit un moment que tout ce que la DIRPA ne communique pas ou ne dit pas ne vient pas de ne pas le communiquer. Mais nous voyons sur les réseaux sociaux des vidéomans et puis d'autres qui se disent même soutien de la transition qui sont là à faire des choses comme ça. Il faut voir les groupes WhatsApp. Souvent, si tu vois les images, ça te fait peur. Et ça humilie des fois certaines personnes. On prend un être humain, on l'expose comme ça, on le force à dire ce qu'il ne veut pas dire, qui ne vient pas du fond de son fond. Donc maintenant, des choses comme ça, les autorités sont les seules à pouvoir mettre fin à cela. Pas d'autre. Parce que des gens qui viennent raconter des choses que la DIRPA n'a pas communiquées, et ils sont là sur les réseaux, ils sont connus, on les voit, ils tiennent des plateaux d'une heure ou même de plus. Des gens qui sont là en train d'intervenir aussi. Donc maintenant, vous savez, en matière de guerre, personne ne gagne. Il n'y a que des perdants. Que ce soit les groupes armés, que ce soit l'armée malienne, c'est des Maliens qui sont en train de tomber. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour mettre fin à cela. Et si on dit de dialoguer, le dialogue, là, les Maliens peuvent discuter entre eux sans médiation étrangère. Et ce dialogue, c'est quoi? Nos légitimités traditionnelles sont là. Nos légitimités coutumières sont là. Pourquoi ne pas les impliquer maintenant à la place de la communauté internationale qui ne pipe pas moi aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut voir le blocus de Tombouctou. Il y a des vieux Tomboxiens qui se sont levés en disant que ce sont leurs enfants, ce sont leurs frères qui ont pris des armes contre leurs parents. Maintenant, il faut se lever pour aller les voir. Mais il faut que l'État aussi s'implique en la matière, en donnant son mandat, son quitus aux personnalités ressources qui peuvent essayer de parler et avec ses frères égarés et avec nous, nos autorités aussi, autour d'une table. Et seul le dialogue peut mettre fin à ça. Parce qu'en un moment arrivé, les armes vont montrer leurs limites. Et on a vu comme exemple les deux guerres mondiales. C'est par le dialogue que ça a pris fin.
Les autorités maliennes avaient mis en place un plan de sécurisation des régions du nord et du et centre du pays. Que reste-t-il, selon vous, de ce plan?
Ce plan, chaque fois, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, mais après, on ne communique pas là-dessus. Bon, on ne peut rien dire aussi. Hein. C'est les autorités qui doivent sortir pour nous donner d'amples exemples et explications. Et
les autorités actuelles peuvent-elles faire face à cette situation d'insécurité grandissante?
S'ils veulent.
Comment?
Mais en s'impliquant. Comme je l'ai dit, les légitimités traditionnelles sont là. Ces gens-là, Yad, Koufa et puis autres là, c'est des Maliens. On peut aller chez eux, on peut aller discuter avec eux. Donc il faut ouvrir un cadre de dialogue avec le mandat de l'État et chercher les personnalités qu'il faut aussi qui peuvent aller vers ses frères égarés afin de les ramener à la raison.
D'accord. On me fait signe que nous n'avons plus de temps. Malheureusement, je voulais faire passer, faire un peu le tour de table. Mais en 10 secondes, dites-nous, quelle solution faut-il à cette guerre?
Bon, la solution qu'il faut, il faudrait que tout le monde s'y mette. Parce que je regrette de constater qu'au Mali, les gens ont tendance à croire que si on gagne, c'est l'autorité qui aura gagné. Hein, et que si l'on perd, c'est l'autorité aussi qui aura perdu quelque part. Donc, il faut que cette dichotomie là cesse entre les populations malies et que tout le monde comprenne que ça, c'est que si l'on gagne, c'est nous tous qui avions gagné. Et si l'on perd aussi, c'est nous tous qui avons perdu.
D'accord à vous?
Alors, en fait, je pense que d'une manière, il faut quand même essayer de dialoguer. La chose, c'est vrai que la guerre, d'une manière, des fois, il faut prendre les armes. Mais à un moment donné, il faut savoir se mettre sur la table pour éviter un bain de sang.
D'accord. Tous les invités appellent à un dialogue. Merci en tout cas. C'est ce qui m'a fait à ce grand dialogue qui réfléchissait sur quelle stratégie adopter contre la recrudescence des attaques contre les emprises de l'armée malienne. Et nous étions avec Alousseini Guindo du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Mohamed Ben Mamata Touré, observateur politique, Dr Alpha Alhadi Akoina, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, à la régie vidéo Mamadi Keita, à la mise en onde de ce débat Adjaratou Traoré, à la coordination Maria Maïga. Je suis Mrana Kilo Maïga qui vous a présenté ce débat. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un autre débat.